pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le 3 juin 1974, aux alentours de 11h du matin, une petite fille de 8 ans, Marie-Dolores Rambla, qui habite Cité Sainte-Agnès dans le quartier des Chartreux à Marseille, joue au pied de son immeuble avec son petit frère. Une voiture s'approche, un homme en descend et explique aux enfants qu'il a perdu son chien. Il leur demande de l'aider à le chercher. Marie-Dolores monte dans la voiture. Deux jours plus tard, la fillette est découverte, poignardée, près de la route entre Aix-en-Provence et Marseille. Dans une champignonnière, non loin de là, un pull rouge est également retrouvé. Christian Ranucci, un représentant de commerce d'une vingtaine d'années, est rapidement arrêté sur la foi de témoignages après un banal accident de voiture dans les environs. Après 19 heures de garde à vue, il avoue être l'auteur du meurtre de la petite fille. Puis il se rétracte. Il ne cessera, jusqu'à sa condamnation à mort le 28 juillet 1976, de clamer son innocence. Malgré le doute planant sur sa culpabilité, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, lui refuse la grâce présidentielle. Trois demandes de révision de son procès seront déposées en vain en 1978, 1981 et 1990. Dans un livre publié deux ans après la mort de Ranucci, Le pull au vert rouge, l'écrivain Gilles Perrault mène une contre-enquête dans laquelle il rassemble de nombreux éléments susceptibles de faire surgir le doute sur la culpabilité du condamné, un doute qui bien sûr aurait dû bénéficier à l'accusé. Il y aura aussi un film, Le pull au vert rouge, et un téléfilm sur sa mère, Le combat d'une mère. En 2006, l'affaire est encore relancée lorsqu'on s'aperçoit que le fameux pull-over rouge, découvert non loin du corps de la victime, se trouve encore au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que des tests ADN pourraient être effectués. 40 ans plus tard, enfin, un nouveau témoignage, un petit morceau de cette tragique affaire, vient encore l'éclairer d'un jour nouveau, ou du moins lui donner une perspective différente. Celle qui raconte aujourd'hui et se souvient se nomme Geneviève Donadini. Elle est présente lors du procès de Christian Ranucci qui ne dure que deux jours. Elle dit aujourd'hui pourquoi cette affaire a aussi changé sa vie à elle jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un reportage de Leïla Djikli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis née pendant la guerre. J'étais une enfant sage parce qu'il fallait un peu être, je dirais pas transparente, mais il fallait pas se faire remarquer. Alors, ça m'a rendue quand même très réservée et très timide. Et toute cette discrétion a fait que j'étais pas du tout appelée à faire ce que j'ai fait, quoi. Le matin du mois de mars, le jour du procès de Christian Ranucci, je suis partie de très bonne heure de mon domicile, qui est situé à environ 35 km du tribunal de la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Donc, pour ne pas être en retard, je suis partie très tôt, c'est-à-dire vers peut-être 6h30. Donc, j'ai pris ma deux chevaux, je suis partie pour Aix-en-Provence. Eh bien, j'étais assez sereine. Parce que le gendarme qui m'avait convoqué pour cette session d'assises m'avait dit « Mais vous savez, pour ce grand procès, vous serez récusé. » Donc je suis partie très sereine, pensant que bon, ben, effectivement, j'allais être récusée et que je n'aurais pas assiégé ce jour-là, ou ces deux jours-là, puisque le procès devait durer deux jours. Lorsque je suis arrivée, j'ai été extrêmement surprise par la foule qui attendait, donc qui était sur les marches du tribunal. J'ai dû faire appel à un policier pour lui dire « mais aidez-moi à rentrer ». L'intérieur du tribunal archi plein, et j'ai tout de suite vu sur les murs du palais de justice des tags qui demandaient la mort.
Il
il y avait une grande tension. C'était déjà l'affaire 2 ans auparavant avait été énormément médiatisée. Ça avait un peu déchaîné les passions. Et à l'arrivée donc dans le tribunal, je voyais bien que les passions étaient encore exacerbées puisque la sentence, c'était manifestement la mort. Et qui avait une ambiance de haine, de vengeance, d'énormes pressions sociales, médiatiques. Il y avait eu quelques jours auparavant l'affaire de Patrick Henry, donc avec l'assassinat d'un petit garçon. Et la France est vraiment, avait peur. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Roger Giquel donc, à la télévision, en disant « la France a peur ». Et cette phrase est restée quand même dans beaucoup de mémoires. Et effectivement, la France avait peur. Les gens criaient « la mort, il faut la mort ». Donc j'ai commencé à être très inquiète et à être émotivement très perturbée. Je suis finalement arrivée à pénétrer dans cette salle. Je me suis installée sur le banc où il y avait l'ensemble des jurés qui étaient là, puisque nous étions donc une trentaine et qu'il y en avait 9 qui devaient être tirés au sort. Tout le monde étant installé, le président de la cour rentre, alors avec bien sûr beaucoup de cérémonial. On a l'impression d'être un peu au théâtre, de faire partie d'une troupe théâtrale. D'un côté, les jurés, de l'autre côté, les familles. Énormément de journalistes. Il y avait des grands journalistes, il y avait Frédéric Potcher, des ténors donc, des médias. Et il y avait donc d'un côté la famille de la petite Rambla. Je me souviens très bien du papa. Il y avait la maman de Christian Ranucci, foulard sur la tête, des grosses lunettes noires. Bon, bah, elle était comme ça, quoi. Je veux dire, moi, c'est pas. Ça, personnellement, ça m'a pas choquée, mais je sais que beaucoup de personnes ont été choquées de la voir ainsi, pas du tout discrète, on va dire. Il y avait la cour, donc, monsieur le président, avec ses 2 assesseurs, et il y avait les 3 avocats de Christian Ranucci. C'était maître Lombard, c'était maître Le Forcené et maître Fraticelli, qui lui n'a pas plaidé. Et il y avait l'avocat de la famille Rambla, maître Collard. Le président arrive et il commence à tirer au sort les noms des 9 jurés, plus un de réserve, qui vont participer au jury donc, de cette session d'assises. Et mon nom est tiré. Et donc, j'attendais que l'avocat de la défense, maître Lombard, dise « récusé ». Et puis, bien, il ne disait rien. J'étais toujours assise et le président du tribunal dit « Mais madame, avancez !» Et donc là, c'est comme un coup sur la tête. Je dis mais c'est pas possible, comment vais-je faire ? J'étais très perturbée, très inquiète. J'étais la seule femme puisque une autre dame avait été effectivement tirée au sort, mais elle avait été récusée. Donc j'étais la seule femme avec les 8 messieurs qui m'accompagnaient dans cette décision collective. J'avais 35 ans, avec 3 enfants à la maison, donc ça avait déjà été très compliqué pour organiser tout ça. À l'époque, j'étais donc déjà adjointe au maire. Eh bien, c'est le village où j'habite toujours, la Plaine-sur-Yvonne. Voilà. C'est un gros village, il y a quand même 6000 habitants. Oui, oui, donc j'ai été adjointe au maire, et ensuite c'est moi qui ai été maire de cette commune-là. J'étais militante du Parti communiste, qui à l'époque se battait pour l'abolition de la peine de mort. Et à cette époque-là, c'était le maire de la commune qui transmettait donc à la justice, qui transmettait une liste de noms. Et donc il m'avait demandé, il m'avait dit « Mais est-ce que je peux te mettre sur la liste ?» Et moi j'avais dit « Bah oui, il n'y a pas de problème, mets-moi sur la liste. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur cette fameuse grande liste. Et que dans cette grande liste, j'ai quand même été tirée là où on en sort 30, quoi. Donc j'étais là-dessus, voilà. Pour ça, alors donc j'étais tout à fait, je dirais pas que je l'ai fait avec insouciance. Je me suis bien dit, bon, ben, si tu es sur la liste, tu seras peut-être appelée à siéger. Alors, on nous a préparé avant la session, donc au début de la session d'assises, donc avant les autres procès, mais très très rapidement, au maximum une heure, où donc le président du tribunal a expliqué que donc on siégeait donc à ce jury d'assises, qu'il ne fallait pas montrer ses émotions, ne pas poser des questions directement, mais si on avait des questions à poser, les lui faire passer en les écrivant, donc pour qu'il puisse lui les formuler de façon plus neutre. Et puis bon, après on nous a demandé de jurer, puisqu'on jure donc donc de juger en son âme et conscience, de son intime conviction, enfin bon, ce qui est tout à fait donc réglementaire, hein, des textes réglementaires, très bon, la fantaisie n'a pas droit là. Hein. Et ensuite de garder secret l'ensemble des délibérations. On a le droit de ne rien dire donc des délibérations sous peine de prison et de forte amende. Il n'y a pas de prescription pour ça, on doit garder ce secret toute la vie. Le procès commence. Alors bien sûr, il commence par la présentation de l'accusé, la présentation de sa vie, qui a été une vie courte puisqu'il n'avait que 20 ans. Donc ce qu'il avait fait, dans quel milieu il vivait. C'était un jeune homme tout à fait normal, quoi. C'était pas quelqu'un qui avait eu des démêlés avec la justice. C'était un jeune homme normal qui vivait bien sûr dans un foyer donc de divorcés, mais bon, la maman ayant beaucoup déménagé, bon. Mais c'était pas quelque chose d'exceptionnel. C'était pas une enfance malheureuse comme ça aurait pu exister. Lorsque Christian Ranucci donc rentre, on a en tête les photos que nous avons vues dans la presse. Or, ça fait 2 ans se sont passés, donc il a les cheveux beaucoup plus courts, il n'a pas les grosses lunettes où on l'avait vu avec des lunettes, et il rentre avec un costume bleu mais très criard et un soupul blanc. Et avec, sur ce soupul, une croix. Et je crois que cette croix, qui était une grosse croix, a fait une impression sur l'ensemble des jurés, et je pense l'ensemble des personnes qui étaient présentes. C'était un signe ostentatoire, mais très fort. Et comment quelqu'un qui a fait un tel crime peut-il porter une croix ? Pour moi, qui ai une éducation catholique, c'était un peu difficile à supporter. Je vois toujours l'image de ce garçon accusé d'un crime terrible et qui arrive là. Et même dans son attitude, avant qu'il ait parlé, on voyait qu'il était arrogant. C'était un peu impressionnant. La fin de cette première journée, je suis abasourdie, complètement, disons, abrutie par tout ce que j'ai entendu, dans l'incapacité de faire le tri. Donc je reprends ma voiture, je rentre à la maison, je n'en parle pas, je ne regarde pas la télé, je ne lis pas les journaux, je m'occupe de mes enfants et je me prépare à repartir le lendemain en pensant que la journée du lendemain serait une journée spécialement pénible. J'appréhendais parce que le lendemain, je savais que c'était le verdict et que donc il allait y avoir quelque chose de décidé, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors la nuit, bien sûr, c'est pas très bien passé. J'ai revu un peu tout ce que j'avais revu. J'ai entendu tout ce que j'avais entendu en essayant de faire un peu, comme on dit, le tri, mais avec une opinion qui pouvait changer toutes les 5 minutes. Il est coupable, il n'est pas coupable. Oui, il doit être coupable, mais qu'allons-nous faire? Quelle peine il va être appliquée? C'était tout ça, quoi. Et en fait, mon problème, c'était surtout la peine qui allait être appliquée. Mais là, je commençais à appréhender parce que le verdict, je supposais qu'il allait être quand même terrible. Tout était contre lui et que je pense que donc, pour tout le monde, à cette époque-là, il était coupable. Ça, c'est sûr qu'il n'y avait pratiquement pas de doute sur sa culpabilité. Alors moi, j'attendais les plaidoiries du lendemain, pensant que les avocats apporteraient peut-être des faits nouveaux qui feraient que, bon, ben, on pourrait peut-être douter de sa culpabilité. Le deuxième jour se passe essentiellement par les plaidoiries de la partie civile, donc de Maître Collard. Il n'a pas demandé la mort, il a demandé une peine juste. Mais bon, une plaidoirie quand même en montrant l'horreur du crime, la douleur des parents. Après, je pense qu'il y a eu l'avocat général, lui très percutant, très clair. Il faut le condamner à mort. Il démontre qu'il est coupable et que donc la seule peine qu'on doit lui infliger, c'est la mort. Ensuite, vous avez la défense, ils ont plaidé contre la peine de mort. Pas forcément en cherchant à montrer qu'il était innocent, mais contre la peine de mort. Moi, j'étais un peu admirative devant leur façon de s'exprimer, avec des phrases quand même plus ou moins choc. Je me souviens que Maître Lombard avait dit « Madame, messieurs les jurés, vous êtes aujourd'hui les plus puissants du monde. Vous avez la possibilité de faire tomber cette tête. » Je veux dire, quand vous entendez des phrases comme ça, ou quand vous entendez celle de l'avocat général qui dit « Ranucci, vous êtes au-delà de la pitié des hommes. » Que Dieu vous assiste. Bon, moi j'étais, comme vous dire, la petite madame tout le monde, là, de 35 ans. Je n'étais jamais rentrée dans un tribunal, je n'avais jamais assisté à un procès, je n'avais jamais entendu de plaidoirie. Bon, c'est quand même quelque chose qui vous marque et qui s'imprègne un peu en vous, quoi. C'était un moment qui était très fort pour moi et en même temps, ça me confortait dans mon opinion, à savoir que je changeais d'opinion toutes les 5 minutes, suivant qui j'entendais, qui j'écoutais. Je n'arrivais pas à me faire une opinion, si ce n'est que, bon, je pensais qu'il était coupable, ça c'était sûr, mais bon, est-ce qu'on m'aurait démontré qu'il avait des circonstances atténuantes ? J'étais preneuse, mais ça n'a pas été le cas. Il n'y en avait peut-être pas. Je me sens un peu perdue. Et je me dis, tu n'as pas la capacité de juger, quoi. On me demande de juger alors que je n'y connais rien. On ne me demandera pas de faire une opération chirurgicale si je ne suis pas chirurgien. Chacun dans la vie a ses spécialités. Et là, ben, la justice, je ne savais rien de la justice, quoi. C'est ce qui m'a vraiment perturbée, de dire mais tu as quand même la possibilité de le tuer, ce garçon, quoi. Donc quoi qu'il ait fait, tu es là, tu vas décider de sa vie ou pas. Voilà, il va vivre ou il va pas vivre. L'angoisse est venue à un moment très précis, à savoir lorsque on nous a fait circuler de main en main, donc la main des jurés, les photos de la petite fille, donc la petite fille massacrée, le couteau, donc taché de sang, et la petite chaussure. Et je pense que c'est cette petite chaussure que je garde dans la tête, petite chaussure qui était bien sûr tachée de sang. Alors là, l'émotion quand même vous submerge à ce moment-là. Madame et messieurs les jurés, vous allez vous lever, on va dans la salle délibération et on va délibérer. Et il y a une petite porte derrière la salle, là, et donc nous partons tous et nous allons nous installer dans cette petite salle de délibération. Donc nous nous sommes installés autour d'une table, au milieu de laquelle il y avait une urne, une espèce d'urne, voilà. Et donc les délibérations ont duré entre 2 et 3 heures, quoi. Ça n'a pas duré énormément de temps. Il y a deux questions principales. Il y en a plusieurs, mais deux questions principales. La première, est-il coupable ? Oui ou non ? Ensuite, a-t-il des circonstances atténuantes ? S'il avait eu des circonstances atténuantes, il aurait pu échapper à la mort. N'ayant pas de circonstances atténuantes, c'était forcément la mort. Donc ce qu'il fallait faire pour qu'il n'ait pas la mort, c'était voter les circonstances atténuantes. Alors la seule chose que je peux dire, c'est que ce qu'a dit le président du tribunal, c'est qu'il a été condamné à mort par 8 voix au moins. Mais ça, c'est la loi qui le dit. Alors, je ne sais pas maintenant comment c'est, puisque c'est que 6 jurés. Il faut 8 voix au moins pour que la sentence soit appliquée. Et donc après, il a compté les voix et puis voilà, il a dit bon, et c'est ce qu'il a dit après. Donc par 8 voix au moins, il a été condamné à mort. Donc nous sommes rentrés tous les uns après les autres dans cette salle. Je dirais que j'étais très très perturbée. Et donc ça, je peux le dire parce que Maître Le Forcené l'a écrit dans son livre. Il a écrit lorsque les jurés sont rentrés, Maître Lombard m'a demandé de les regarder. Moi, je ne les regarderai pas, regarde-les. Et Maître Le Forcené, il dit, j'ai regardé la dame jurée. Et il a dit à Maître Lombard, c'est foutu. Je venais de participer, même si la décision elle est collective, une décision collective de peine de mort. Et que, donc ce jeune qui était là, qu'on voyait, eh ben, il serait sans doute décapité. Des gens dans la salle ont crié bravo. Donc j'ai dit mais c'est pas possible. On crie bravo parce qu'il y a un jeune de 22 ans qui va être décapité. Donc je me suis enfuie. Hein. J'ai repris ma voiture et j'ai pleuré tout le long en arrivant. Et même là, en en parlant encore 40 ans après, je sens l'émotion qui monte. Ça ne m'a pas lâchée. Cette émotion, c'est disons, d'avoir participé, malgré moi, d'avoir participé à une décision qui n'est pas humaine. Même si on peut la comprendre, même si on peut comprendre la douleur des parents, même si on peut comprendre. Mais on demande à des personnes comme nous jurés qui n'avons rien demandé, on leur demande de prendre une décision. Et je ne dirais pas qu'on les force, mais on les encourage, on les incite à prendre une décision inhumaine. Donc c'était contraire à tous mes principes. Et malgré moi, j'y ai participé. J'ai perdu ma légèreté parce que je ne pensais pas que... J'étais quelqu'un de très gai, de bon. Je ne pensais pas avoir participé à quelque chose comme ça. Oui. Et moi, ensuite, après, j'ai eu une vie tranquille, j'ai fait des études tranquilles, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu une vie très, très tranquille. Et d'un coup, ça m'a remis dans une réalité qui n'est pas aussi belle que ça, quoi. Une gravité que je n'avais pas envie d'avoir. Ça a changé ma vie, ça a changé ma vie. Donc j'ai pleuré sur la route, effectivement. J'arrivais à la maison, mon mari m'a quand même là questionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah oui, il a été condamné à mort. Bon, on n'en parle plus. Puis après, dans ma tête, je me disais, bon, il y a encore la grâce présidentielle. Et puis il n'y a pas eu de grâce. Les mois qui ont suivi, je l'ai un peu oublié. Donc j'ai eu des préoccupations, disons, familiales, qui m'ont éloignée un peu de ce procès. Et puis, voilà, après, il est arrivé le 28 juillet. Le 28 juillet 1976, où j'étais en vacances à la montagne avec mon époux et mes enfants. Et le matin, je mets la radio et j'entends Christian Ranucci a été guillotiné ce matin à la prison des Baumettes. Et alors là, ça a été la stupéfaction, les larmes sont revenues. Et puis, c'était une information tellement décalée, quoi. Je veux dire, au milieu des brèves, au milieu de la météo, au milieu de ce qui se passait à l'époque, je ne sais même pas ce qui se passait à l'époque, mais bon, comme ça, d'un coup. Et donc, je me suis remise à pleurer, mon mari est arrivé, mais qu'est-ce que tu as? Et je lui dis, mais ils l'ont tué. Et lui, très loin de ça, me dit, mais ils ont tué qui? Mais je dis, ils ont tué Ranucci. Et il me répond, ben oui, c'est vrai, c'est ce qui devait se passer.
Quarante ans après, est-ce que vous avez le droit de dire ce que vous avez voté?
Ah non, je ne le dis pas. Non, j'ai pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Le secret, il est éternel. Il sera enterré avec moi. Non, je ne dirai pas. En fait, vous êtes citoyen, vous faites votre devoir, et ensuite, vous êtes puni de l'avoir fait, puisque vous êtes réduit au silence.
Vous ne l'avez jamais dit à personne ?
Non, jamais. Moi, la seule chose que je souhaiterais pour les jurés, c'est qu'il y ait ensuite une aide psychologique. Parce que vous avez des affaires encore très dures, des crimes, des viols. Vous avez des dames qui siègent comme jurées à des jugements de viol. C'est extrêmement dur. Et je pense qu'après, relâcher comme ça dans la nature, c'est pas juste. Un minimum d'aide psychologique. On y fait appel ou on n'y fait pas appel. Mais si on a la possibilité de faire appel, moi j'aurais aimé pouvoir parler à un psychologue après cette affaire-là. J'aurais aimé, puisque donc je me suis murée dans le silence parce que je ne pouvais parler à personne. Mais avec un psychologue, ça aurait, sans trahir le secret des délibérations, mais ça aurait quand même été un bienfait pour moi de pouvoir en parler de cette épreuve. Pour moi, ce n'est pas un cas de conscience. Non, j'aurais un cas de conscience si, je sais pas, j'avais écrasé quelqu'un avec ma voiture, ça j'aurais un cas de conscience. Mais là, non, là, j'ai fait mon devoir, là, je n'ai fait que mon devoir. Et quelque part, je suis un peu punie de l'avoir fait.
Est-ce que vous regrettez le vote que vous avez eu ce jour-là ?
Non, je ne répondrai pas. Non. Non, je ne répondrai pas à cette question.
There's a pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking in St. James Parish.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec un secret lourd à porter. Un reportage de Leila Gitli réalisé par Alexandra Malka. Merci à Geneviève Donadini qui publie, je le signale, aux éditions de L'Harmattan, un livre intitulé Le procès Ranucci. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, des commentaires, des courriels, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre ou bien sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent les likes, les retweets et autres followers avec impatience.